Oui, bonjour. Nous sommes vendredi le 8 septembre 2023 et je suis Yves Dalpé, psychologue, et je poursuis la lecture de mon livre intitulé La fidélité n'est pas banale. Alors donc, nous commençons le chapitre 3 qui s'intitule La gestion de la crise. Sous-titre, les indices d'infidélité. C'est arrivé à l'un de mes clients. Il est dans son auto et il téléphone à son épouse pour la prévenir que son travail l'empêche de rentrer à la maison. Puis, il dépose son téléphone cellulaire et s'empresse de faire des remarques à sa nouvelle conquête assise à ses côtés, tout en discutant avec elle du choix du restaurant où ils iront passer un beau moment romantique. Or, par mégarde, notre tourtereau n'avait pas fermé correctement la ligne téléphonique de sorte que son épouse a tout entendu. C'est ce qui l'avait amené à mon bureau, tout penaud et fort inquiet de son avenir conjugal. Semble-t-il que la plupart des personnes trompées sans doute à cause de toutes sortes d'indices et parfois un indice plus révélateur que d'autres provoque une soudaine enquête, une enquête maison réalisée avec fébrilité en l'absence du conjoint infidèle. Ainsi, une épouse normalement respectueuse de l'intimité de son mari va se lancer impulsivement à l'assaut de ses derniers relevés de carte de crédit, va fouiller toutes les poches de ses pantalons, va scruter ses reçus des derniers mois, va composer le dernier numéro de téléphone reçu à la maison, va vérifier les appels de son téléphone cellulaire, va fouiller les poubelles, entre parenthèses, des clientes y ont déjà trouvé des condoms usagés ou des mots d'amour ou des numéros de téléphone compromettants. Fermez la parenthèse. Va mettre la main sur son portefeuille, va réussir à lire les courriels du mari reçus à son travail, va interroger ses collègues de travail et sa secrétaire, etc., etc. En revanche, certaines personnes, par trop naïves, ont une confiance aveugle à face à leur conjoint qui ne les respecte. Qu'il ne le mérite pas, point d'exclamation. Quand je travaillais à l'Université Laval, une de mes étudiantes vint me voir un jour pour me confier un secret. Ouvrez les guillemets. Depuis plusieurs années, me dit-elle, je suis la maîtresse de quelqu'un que vous recevez en thérapie conjugale dans votre cabinet privé. Je veux que vous le sachiez, car il vous a caché cela, je le sais. Fermez les guillemets. Le soir même, je recevais justement. Attendez un peu, j'ai sauté une phrase et ça ne fait pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Alors, je reprends ce qu'elle me dit. Ouvrez les guillemets. Depuis plusieurs années, me dit-elle, je suis la maîtresse de quelqu'un que vous recevez en thérapie conjugale. Je veux que vous le sachiez car il vous cache cela, je le sais. Fermez les guillemets. Le soir même, je recevais justement en entrevue individuelle l'épouse de cet infidèle. Je lui demandais si elle avait déjà eu des doutes sur la fidélité de son mari. Ouvrez les guillemets. Jamais, me répondit-elle. Rapidement, il n'y a pas plus fidèle que mon mari. Il est comme un gros chien Saint-Bernard. Fermez les guillemets. Parfois, une conjointe se sent devenir de plus en plus jalouse sans raison apparente et elle s'en culpabilise. Ouvrez les guillemets, je deviens une vilaine jalouse, ce n'est pas beau, fermez les guillemets, alors qu'en réalité, elle réagit inconsciemment à une réelle infidélité que son organisme détecte. une multitude d'indices peuvent mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui étire de plus en plus ses heures de travail, par exemple, ou qui passe de plus en plus de temps avec un collègue ou une collègue à l'extérieur du bureau, ou qui parle souvent avec beaucoup d'intérêt de telle personne en particulier. Les changements subis d'apparence peuvent être révélateurs aussi. Une minutie soudaine dans le choix des vêtements, un changement du style de coiffure, une femme s'achète des sous-vêtements friolants qu'elle ne porte jamais en présence de son mari, des escapades fréquentes et inexpliquées, là, hors de la maison pour des raisons parfois loufoques. Un de mes clients, ayant une maîtresse disparue durant 2 heures le jour de l'anniversaire de naissance de son épouse, il était allé voir son amoureuse. Au retour, il fit croire à son épouse qu'il allait lui acheter un cadeau à l'autre bout de la ville. Le pire, c'était un cadeau qu'elle n'aimait pas, alors qu'elle lui avait suggéré un cadeau qui se vendait tout près de la maison. Certains mensonges sont plus choquants que d'autres. Par exemple, un client avait pris l'habitude de passer ses samedis matins avec sa maîtresse. Il emmenait avec lui son bébé d'un an, ce qui lui donnait une excuse pour son escapade. Il s'absentait, disait-il à son épouse, pour permettre à celle-ci de se reposer. D'intenses triangulations dans un couple peuvent constituer un autre indice, particulièrement quand un individu, ami d'un couple, partage beaucoup de temps libre avec ce couple. Une de mes clientes se sentait envahie par la présence constante d'un ami de son mari qui était souvent à la maison et qui suivait le couple même en voyage. Elle se blâmait pour sa réticence et son mari lui reprochait de manquer de générosité. Or, en réalité, son mari entretenait une relation homosexuelle camouflée avec cet homme-là, ce qu'il lui avoua plus tard. Une autre source d'indice à laquelle on ne pense pas spontanément, c'est l'anxiété. L'infidélité peut évidemment ronger quelqu'un et le rendre très anxieux. La vraie source d'insomnie inexplicable trouve parfois son origine dans des aventures sexuelles ou amoureuses bien cachées. Un homme d'affaires impliqué dans des relations internationales vint me consulter parce qu'il ne pouvait plus prendre l'avion alors qu'il en avait bien besoin pour son travail. Dans un avion comme dans tout espace restreint dont il ne pouvait s'échapper à volonté, il étouffait au point de faire des crises de panique. Après plusieurs mois de consultation, il osa m'avouer sa relation extra-conjugale avec une Parisienne. En fait, il ne se sentait pas coincé dans les avions, il se sentait coincé surtout dans sa relation conjugale et dans son aventure extra-conjugale. Sa claustrophobie était une forme de déplacement de son anxiété conjugale. Atterré par son désir de quitter son épouse qui l'aimait tant et à qui il était quand même très attaché, il en perdait l'équilibre. Son épouse, appuyée par les malaises anxieux, apitoyée, c'est-à-dire, par les malaises anxieux de son mari, n'y voyait que du feu et ne devinait pas ce qu'il y avait là-dessous. Bien sûr, c'est plutôt un ensemble de comportements de circonstances qui mettent sur la piste d'une infidélité et non pas un indice isolé sans rapport avec les attitudes générales d'un conjoint. Il ne faut pas tomber dans le doute paranoïaque qui voit des indices où il n'y en a pas. Un couple nouvellement formé me consultait parce que le mari était jaloux. Le moindre regard de sa nouvelle compagne étaient évalués en fonction d'une possible séduction et impossible de le rassurer. Au fond, il était certain de plaire, il était incertain de plaire vraiment à sa nouvelle conjointe, la jugeant plus désirable que lui socialement. Se sentant donc inférieur avec la chance d'avoir conquis cette trop belle femme, il craignait le moment où un homme supérieur lui ravirait son trophée. Ses réactions paranoïaques s'expliquaient donc par son sentiment d'infériorité, mais non par les agissements réels de sa nouvelle conjointe qui l'aimait profondément. Nouveau sous-titre, les pénibles révélations. Comme la découverte de l'infidélité provoque une crise dans le couple, et ce n'est pas banal puisque la poursuite de la relation conjugale est en jeu, est-ce une bonne idée que de révéler à notre conjoint ou conjointe qu'on l'a trompé? Certains auteurs, comme le très réputé psychologue américain Arnold Lazarus en 1985, pensent que toute infidélité devrait être cachée le plus possible au conjoint. Selon Lazarus, l'amitié permettrait plus de confidence que la relation amoureuse. Dans la relation conjugale, pense-t-il, le conjoint ne peut supporter des informations trop menaçantes comme l'infidélité. Cela affecte trop le confort émotif du conjoint et le climat général de la relation conjugale. Cela est encore plus vrai pour les femmes, selon Hayne en 1997. D'après Hayne, quand une femme avoue une infidélité à son mari, le divorce est plus probable que la réconciliation. Cet avis de garder automatiquement le secret est étonnant et peu partagé. D'autres auteurs, comme le psychiatre Pittman en 1989, pensent exactement le contraire. Selon lui, Pittman, les cachettes en matière d'infidélité sont destructrices pour le couple et la famille. Les couples doivent tout se dire, pense-t-il, surtout les mauvaises nouvelles, celles qui dérangent le plus, celles qui portent des éléments de culpabilité et celles qui sont susceptibles d'apporter de la controverse. Les efforts déployés pour cacher la vérité seraient une joute de pouvoir qui désorienterait la personne trompée tout en la rendant dépendante, anxieuse et nerveuse. Le manque de franchise serait un ennemi de l'intimité puisqu'il crée inévitablement de la distance. C'est pourquoi Pittman conçoit la confession de toute infidélité comme un préalable non négociable à la restauration du climat de confiance dans le couple. Emily Brown, en 1991, abonde dans le même sens, affirmant même que les secrets familiaux de cette nature rendent fou. Révéler la vérité, selon elle, provoque une crise conjugale, certes, mais cela est bénéfique pour le couple. En effet, celui-ci est alors obligé de s'arrêter et d'aller au bout d'un dialogue nécessaire. Des nuances s'imposent pour se positionner entre ces deux points de vue opposés et draconiens consistant à ne rien dire ou à tout dire. D'abord, selon moi, il ne sert à rien de compliquer les choses en dévoilant une relation extra-conjugale si l'infidèle est sur le point de mettre fin à son mariage. Et encore moins si cette rupture était clairement planifiée d'avance avant l'infidélité. D'autre part, il y a un danger que le partenaire trompé réussisse réagisse avec violence. Excusez, je reprends ma phrase. D'autre part, s'il y a un danger que le partenaire trompé réagisse avec violence, évidemment, mieux vaut s'abstenir de dévoiler la vérité. Même chose si le conjoint trompé risque de déclencher des poursuites légales. Il faut savoir se protéger. Mais il y a encore plus à considérer avant d'avouer une infidélité. Janice Spring, en 1996, psychologue américaine, auteure d'un best-seller sur l'infidélité, avec qui j'ai d'ailleurs suivi une enrichissante semaine de formation, et aussi Lusterman, en 1998, suggère de s'interroger sur nos motivations personnelles avant de passer aux aveux. Est-ce que j'ai envie de révéler mon infidélité simplement pour me soulager de ma culpabilité? Est-ce plutôt pour améliorer notre communication de couple? Mon conjoint ou ma conjointe y gagnerait-il quelque chose? N'est-ce pas plutôt pour le heurter ou la heurter que je veux me dévoiler? Ou encore, est-ce pour me venger ou pour le forcer à demander le divorce? De toute façon, pour Lusterman, en 1998, quand la question est clairement posée par notre conjoint, il faut dire la vérité. Cette éventualité tranche alors la question. Le mensonge dans un tel contexte mène presque automatiquement à une dégradation de la relation conjugale. En fait, quand c'est possible, surtout si l'on veut améliorer la relation conjugale, l'idéal est de passer courageusement aux aveux, et ce, le plus tôt possible. En passant, un bon truc pour éviter de s'enliser dans une infidélité, c'est de confier notre envie à notre conjoint avant d'actualiser notre désir. Cela renforce la loyauté dans le couple et resserre les liens tout en refroidissant des velléités extra-conjugales. Même des attractions sexuelles banales ont parfois avantage à être confiées entre conjoints. Bien sûr, révéler une infidélité, une fois que la chose est arrivée vraiment, est une autre paire de manches. Mais il y a des réels avantages à le faire. Selon Glass et Wright, en 1993, l'aveu d'une infidélité permet de mettre un terme à la double vie qui prend énormément d'énergie. Il permet aussi de cesser la coalition secrète avec l'amant ou la maîtresse. En plus, l'aveu contribue à améliorer l'intimité maritale tout en rétablissant la loyauté avec la bonne personne, c'est-à-dire le conjoint. Mais surtout, la révélation d'une relation extra-conjugale ouvre le canal de la communication entre les deux conjoints sur des sujets brûlants de pertinence pour leur entente. L'objectif de la révélation d'une infidélité est d'élaborer un fil conducteur qui apporte aux deux conjoints. Attendez un petit peu. Apporte aux deux conjoints un sens à cette crise conjugale. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on cherche à faire en thérapie conjugale. La mission du couple consiste alors à trouver les facteurs multidimensionnels qui ont induit l'infidélité. La façon la plus efficace d'éviter de nouvelles infidélités ou d'éviter la dissolution du couple, c'est de comprendre à fond les raisons qui ont conduit à la relation extra-conjugale. Quand une infidélité vient d'être découverte dans un couple, le partage de la vérité peut être très pénible, on le sait. Lors d'une première confrontation entre les deux conjoints, les questions du conjoint trompé fusent généralement de toutes parts. Typiquement, l'infidèle hésite à répondre en toute franchise, ne sachant pas trop s'il améliorerait son cas en étant totalement franc ou s'il n'alimenterait pas plutôt inutilement une colère déjà assez intense. L'attitude de la personne trompée est alors déterminante et l'infidèle fait bien d'en tenir compte. En effet, la capacité de recevoir doit être évaluée. Si cela est nécessaire, on reporte la séance d'information à un autre moment. Mais comme la pression peut être extrêmement forte, les omissions et les mensonges sont alors souvent la sortie de secours de l'infidèle. Mais que faut-il révéler au juste? Le conjoint trompé a bel et bien besoin de savoir. Le conjoint trompé a bel et bien besoin de savoir un minimum d'informations entourant l'infidélité. Il doit connaître le nom de l'amant ou de la maîtresse. Il peut être utile de savoir que le conjoint trompé est souvent capable de deviner le nom de la maîtresse ou de l'amant. La plupart du temps, il s'agit en effet d'une personne connue du couple, comme un collègue de travail, un voisin ou un ami du couple. Il arrive que ce soit un membre de la famille ou le meilleur ami de l'épouse, par exemple. Inutile de dire que ces situations-là sont encore plus douloureuses. Le conjoint trompé doit savoir aussi combien de temps a duré la relation extra-conjugale et si elle dure encore. Le degré d'implication affective et amoureuse doit être révélé. On doit lui dire aussi que qui d'autre est au courant de cette affaire et si cela s'est produit dans la maison aussi. D'autre part, ce n'est pas une bonne idée de donner de plus amples détails comme des positions sexuelles et d'autres périples sexuels. Le conjoint trompé n'en souffrirait que davantage et tout à fait inutilement. D'ailleurs, certaines personnes trompées vont trop loin en accablant jour et nuit leur conjoint de questions interminables et en se montrant insatiables. Un client avait l'impression qu'à de telles occasions nocturnes, son cœur allait céder de battre. Son épouse pouvait le réveiller la nuit et lui infliger des interrogations de plusieurs heures. Il en était terrorisé. Dans ces cas-là, aucune réponse ne semble satisfaisante. Bien au contraire, toute nouvelle information alimente encore plus l'obsession de façon malsaine. Il faut dire que certaines situations sont plus lourdes que d'autres. Ainsi, quand une femme découvre de nouvelles dimensions des infidélités, qu'elle apprend ainsi par exemple, que son mari fréquentait les bars de danseuses nues et aussi les salons de massage érotiques et qu'il était dépendant du cybersexe depuis plusieurs années, on peut comprendre pourquoi elle devint aussi obsédée par la connaissance de la vérité. Quelle que soit la situation, cependant, selon mon expérience, la plupart des personnes infidèles sont très réticentes à répondre aux questions du conjoint trompé. Une réaction typique de l'infidèle en entrevue conjugale est de répondre « Moi, je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur le passé. Cesse de penser à cela et regarde en avant si tu veux que ça marche. » Une telle attitude ne fait qu'attiser la colère et la suspicion du conjoint trompé qui a d'ailleurs souvent raison d'être méfiant devant des réponses évasives. En effet, quand l'infidèle résiste à livrer le minimum d'informations demandées par son conjoint, c'est peut-être parce que la relation extra-conjugale continue en cachette.
Plus l'infidèle donne des renseignements sur ses habitudes extra-conjugales, plus il donne du contrôle à son conjoint. Il serait plus difficile de poursuivre l'infidélité après avoir révélé ses mensonges et ses trucs pour manipuler le conjoint. Une bonne franchise à ce moment-là aide même à prévenir de possibles relations extra-conjugales futures. Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode et je continuerai évidemment dans à peu près 2 semaines. Et puis le sous-titre sera L'obsession et la surprotection, le pacte du diable. Alors c'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Au plaisir de se retrouver dans environ 2 semaines.